France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
Partout dans le monde, les dépenses militaires augmentent. Sur le champ de bataille, la technologie progresse à une vitesse fulgurante chaque semaine. Alors à quoi ressembleront les armes de demain ? À mesure que les technologies envahissent les forces armées, elles accélèrent l'évolution de la guerre. Les drones en Ukraine en sont le parfait exemple. En parallèle, cette course à l'armement s'accompagne d'une quête effrénée de performances technologiques. Missiles hypersoniques, nouveaux avions de chasse. Mais à quoi ressemblera un champ de bataille dans un futur proche? Et dans 20, 50 ans, même les zones de confrontation ont évolué. La guerre moderne s'étend désormais au fond marin, à la très haute altitude, jusqu'à l'espace, qui est devenu un terrain d'affrontement possible. Arme du futur, un boom technologique. Xavier Pascaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de la politique spatiale américaine et directeur de la Fondation pour la recherche stratégique. Jean-Christophe Noël, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur associé au Centre des études de sécurité de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, ancien officier de l'armée de l'air et rédacteur en chef de la revue Vortex. Et bonjour Olivier Lascar.
Bonjour Natacha, bonjour à tous et à toutes.
Vous êtes rédacteur en chef du pôle numérique de Sciences et Avenir, notre magazine partenaire. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation ici dans nos studios en direct sur France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure en podcast. N'hésitez pas à vous abonner à notre fil podcast sur l'appli Radio France. Les auditeurs et d'ailleurs toute la communauté scientifique s'est réfugiée sur Blue Sky, donc n'hésitez pas à nous y rejoindre sur notre compte @sciencesqfd, nous y sommes très actifs. Alors comment l'émergence de nouvelles technologies bouleverse-t-elle les usages? Vu leur importance actuelle, à quel point les drones seront incontournables à l'avenir? Et comment l'innovation militaire est-elle pensée? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais avant de nous projeter dans l'avenir, on commence par un survol des technologies de pointe qui s'invitent déjà sur les zones de guerre.
Nous entrons dans une économie de guerre, ce qui est un changement pour beaucoup d'entre nous, qui va nous obliger à investir davantage pour les États, à être plus exigeants avec les industriels pour ces derniers, à être encore plus innovants, plus rapides.
Les avancées techniques récentes de l'intelligence artificielle l'ont propulsé au rang des technologies les plus stratégiques du XXIe siècle. Dans le domaine militaire, elle est considérée comme le prochain game changer du champ de bataille. Son utilisation de plus en plus massive, comme en Ukraine ou dans le conflit israélo-palestinien, confirme le sentiment d'urgence.
Ce fusil d'assaut dernier cri du groupe français spécialisé dans la défense Thales, dont on apprend qu'il a été envoyé en Ukraine au début du mois de juillet. Cette arme, la voici, il s'agit de l'AKAR, un fusil d'assaut fabriqué en Australie par l'entreprise Lighthouse Arms, une filiale locale de Thales.
Des drones de dernière génération, dédiés à l'observation et à la surveillance. À Toulouse, l'entreprise de l'air développe depuis quelques années une production axée sur l'industrie de défense. Si son essor a débuté avant le conflit ukrainien, la présence de l'entreprise sur ce terrain dès 2016 a renforcé sa croissance.
Merci Olivier Bétard, notre réalisateur pour ce medley sonore. Xavier Pascaud, pour prolonger ce qui vient d'être entendu, quel est le contexte actuel? On assiste donc à une course à l'armement partout dans le monde, particulièrement en Europe.
Alors, on assiste effectivement à un regain d'activité dans ce domaine. Et je dirais qu'au-delà de la nouvelle course aux armements, en fait, on assiste à une évolution de ce qu'est un armement, en fait. Et ce dont on se rend compte dans tous les exemples qu'on a entendus à travers votre vignette sonore, si j'ose dire, ce sont tous des exemples de systèmes très évolués qui ne peuvent pas fonctionner en réalité bien souvent sans le numérique, sans le support informationnel. Et le numérique, c'est un peu devenu le sang qui circule dans les veines des systèmes d'armes aujourd'hui, au point que, finalement, la manière d'utiliser ces armes, la manière de se les approprier, même en tant que soldat, en tant qu'aviateur, en tant que marin, est en train de changer. Donc c'est tout ça qui est en train d'évoluer, sans qu'on sache très bien vers où tout cela va. On a mentionné l'intelligence artificielle, ça pose plein de questions. Donc je dirais qu'au-delà d'une classique course aux armements, c'est aussi une transformation du monde de l'armement.
Jean-Christophe Noël, votre réaction, vous aussi, à l'écoute de ce montage sonore?
Oui, tout à fait. En fait, on oscille entre deux pôles. C'est un pôle, on va dire, ce qui représente un petit peu la qualité. C'est-à-dire, on est à un moment qui vont toujours plus vite, plus loin, qui sont toujours plus performants. Donc, on a beaucoup de qualité. On va utiliser des technologies de pointe pour être sûr d'avoir une supériorité qualitative par rapport à l'adversaire. Et d'un autre côté, comme le disait Xavier Pascaud, vous avez l'émergence de tout ce qui est digital et l'émergence de tout ce qui est connectivité. Et là, on est dans une autre logique. On est plus dans une logique de quantité, c'est-à-dire vous allez prendre plein de petits objets qui ne coûtent pas forcément cher, vous allez les mettre tous ensemble, et là vous allez arriver à avoir finalement des modes d'action qui sont radicalement nouveaux et qui permettent aussi de faire des choses très intéressantes. Et en fait, un des enjeux du futur, ça va être un petit peu de mixer les deux approches.
Olivier Lascar.
En vous écoutant, Xavier Pascaud, je pense à cette problématique de la numérisation. La révolution du passage au numérique, c'est quelque chose qui a été parfois douloureux dans des activités. Nous, représentants de la presse, on est bien payés pour le savoir. Enfin, bien payés, c'est une expression.
Bien placé.
Est-ce que dans le domaine militaire, ça a donné lieu quand même à des frictions, j'imagine, hein. Il a fallu quand même se mettre à cette fameuse digitalisation.
Oui, bien sûr, d'autant que finalement, au bout du compte, dans le domaine militaire, l'objectif, c'est de faire mal à l'adversaire. Et ce qui fait mal à l'adversaire de manière définitive, c'est un effet cinétique, c'est un effet matériel. Donc, en parallèle de cette numérisation, il y a toujours l'importance de la masse, du matériel, je dirais. Et donc, toutes les administrations dans les différents pays qui, depuis des décennies, voire des siècles, se sont organisées pour préparer la guerre, se sont organisées de telle manière qu'il existe des grands programmes qui sont parfois sur des cycles très longs, hein, de plusieurs dizaines d'années. Et finalement, en très peu de temps, on voit l'irruption dans ce champ très structuré de quelque chose de très fluide, au contraire de très plastique, qui fait intervenir de nouveaux acteurs, qui comporte de nouvelles temporalités. Et tout ça, oui, crée de la friction, de toute façon, de la friction de métier, j'allais dire, que ce soit pour ceux qui produisent les armements ou pour ceux qui les utilisent, d'ailleurs. Dans les armées, je crois que Jean-Christophe pourra le confirmer, il y a ce besoin permanent de réviser les doctrines, de réorganiser parfois les régiments, les institutions, etc.
Et Jean-Christophe Noël ?
Oui, tout à fait. Il y a un bon exemple, c'est la dronisation, c'était, on a vu arriver des acteurs civils, finalement, qui ont commencé à développer des petits systèmes d'armes ou des petits drones pour des actions très particulières. Et que ce soit par exemple en Ukraine ou en Russie, on va dire, les acteurs étatiques se sont trouvés largement débordés. Et donc en fait, on voit que l'innovation, elle est portée par ces acteurs, finalement, souvent des jeunes, qui sont habitués à tous ces nouveaux processus de digitalisation, qui reviennent parfois du front. Ce sont souvent des jeunes qui étaient sur le front, qui se sont aperçus qu'ils avaient des manques. Ils se sont dit, mais nous, on peut combler ces manques grâce à des drones, grâce à des choses comme ça. On va essayer de le développer. Donc, ce sont des développements qui sont locaux, qui progressent progressivement, et face auxquels, on va dire, les vieilles structures, comme disait Xavier Pascaud, qui étaient très adaptées au grand programme, sont un petit peu démunies. Donc, encore une fois, voilà, vous avez deux mondes qui coexistent.
Xavier Pascaud, pour bien comprendre justement ces enjeux de digitalisation, on va commencer avec cette date, le 24 février 2022, le déclenchement de la guerre en Ukraine. Que nous apprend l'Ukraine dans cette mise en application de ces nouveaux équipements ?
D'abord, elle nous apprend quelque chose à son propre détriment, puisqu'en fait la première action, je dirais, presque effective de la Russie quand elle agresse l'Ukraine, en réalité, c'est de toucher les modems qui, en fait, permettent au gouvernement ukrainien de communiquer via un satellite et en créant un problème cyber, finalement, dans ces modems, met à bas le système de télécommunication ukrainien. Et les Ukrainiens, on le sait, c'est bien documenté depuis, avec Elon Musk, recréé avec Starlink, donc là, un tout nouveau système, très différent du système qui avait été attaqué par les Russes, là, basé sur des milliers de satellites, et bien remettre sur pied un système de communication. Ça montre bien que, et là, c'est le premier événement guerrier qui se produit dans cette au moment de cette invasion. C'est très symbolique que ce premier événement guerrier soit précisément un événement qui se joue dans le champ cyber et dans le champ du numérique.
Oui.
Ça montre bien
un
cette place
invisible, presque.
Un événement invisible qui fait pas de mort directement, mais qui est essentiel, visiblement, vu de la partie russe, et qui est essentiel vu de la partie ukrainienne. Donc c'est vrai qu'on a ce point-là.
Alors moi, ce que je trouve très surprenant dans cette occurrence, c'est que finalement le système d'une entreprise privée, donc en l'occurrence le SpaceX d'Elon Musk, a suppléé le manque d'un matériel d'État. Est-ce que ça veut dire que l'acteur privé est plus robuste que les techniques qui étaient précédemment installées ?
Alors Olivier, je crois qu'on peut même dire qu'en fait, il supplée le manque d'un système qui n'était pas un système d'État. Parce qu'en fait, c'était Viasat qui était lui-même un système commercial, mais un système ancien, un système géostationnaire. Mais effectivement, vous avez raison, c'est là aussi très symbolique. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, finalement, des actions très régaliennes, que sont les actions guerrières, qui de plus en plus intègrent dans leur capacité, finalement, eh bien, des capacités qui ne sont pas gérées par l'État. Et ça, c'est toute la difficulté. De là à dire qu'on a une privatisation, on pourrait dire ça, hein, de la guerre ou de l'action de l'État, non, je crois que ce à quoi on assiste aujourd'hui, et la numérique l'a beaucoup fait pour ça, c'est une reconceptualisation des rapports entre la puissance publique et le secteur privé. Et c'est ça qui se passe. On n'assiste pas à une privatisation. L'argent qui circule, c'est de l'argent public. Mais on a cette reconstruction de nouveaux rapports et c'est largement lié à cette numérisation.
On reviendra sur comment, justement, l'espace est devenu une nouvelle zone de conflit, de guerre avec cette cyberattaque. Mais pour poursuivre sur, justement, ces nouveautés, ces innovations, et je mets des grosses guillemets quand je dis ça sur le conflit ukrainien, la grande révolution, Jean-Christophe Noël, c'est le drone, c'est le fait le plus marquant de cette guerre.
Alors tout à fait, c'est intéressant justement dans les enseignements à tirer. On dit souvent pour une boutade que cette guerre d'Ukraine c'est la première guerre mondiale avec des drones. Donc d'un côté il y a les drones, mais de l'autre côté il y a aussi la première guerre mondiale. C'est-à-dire il y a quand même des choses qui sont très importantes. On s'aperçoit que le feu continue à tuer, on s'aperçoit que des mines, bon on n'est pas vraiment dans quelque chose de neuf, mais des mines c'est quelque chose de très efficace pour empêcher une armée de progresser très rapidement. Il y a des tranchées, enfin etc. Donc je ne dis pas qu'un poilu pourrait s'y retrouver, mais en tout cas il y a des traits qui sont communs. Donc encore une fois, tout n'est pas neuf. C'est pareil dans des enseignements, l'Ukraine c'est quelque chose, c'est un terrain spécial, c'est-à-dire c'est un terrain qui finalement il y a beaucoup de plaines, il y a beaucoup de choses comme ça. La guerre aérienne est dans une impasse. Vous avez un acteur nucléaire contre un acteur qui n'est pas nucléaire. Donc tout ça, voilà, ça fait des spécificités particulières. Mais vous avez raison, donc ces drones, ils sont là et ça change beaucoup de choses. Et ça va changer beaucoup de choses, notamment sur le front. Parce qu'en fait, ces drones, ils pullulent, ils sont partout. Et vous avez, chaque camp peut avoir une vision à peu près, peut-être pas parfaite, mais en fait, une vision assez bonne de ce qui se passe de l'autre côté. Et donc à partir du moment où vous allez avoir des regroupements de troupes, à partir du moment où vous allez avoir des véhicules donc, qui forcément sont très visibles, qui émettent par exemple des signaux de chaleur, etc., qui commencent à arriver à ces endroits, ils vont être tout de suite ciblés et tout de suite détruits. Et soit qu'on assiste sur le champ de bataille, et c'est peut-être un parallèle avec la Première Guerre mondiale, c'est la Première Guerre mondiale, au début, vous avez tous ces soldats qui sont alignés et qui foncent. Et les mitrailleuses vont les abattre les uns après les autres, et petit à petit, on va avoir des petits paquets d'hommes, etc., qui, avec une plus grande puissance de feu, qui vont occuper le champ de bataille. Aujourd'hui, c'est un peu la même chose en Ukraine. Vous avez plutôt des petits paquets de bonhommes qui essaient de se mettre à un endroit, de s'accrocher au terrain, et puis de progressivement c'est une agglomération, et c'est comme ça qu'on arrive à conquérir du terrain. Donc on n'est plus du tout dans des logiques telles qu'elles étaient avant, on est vraiment dans cette logique un petit peu de décentralisation, de distribution sur le champ de bataille.
Qu'est-ce que vous dites, On peut chiffrer le nombre de drones qui sont aujourd'hui impliqués dans le conflit en Ukraine?
Ah bah, on en produisait une centaine de milliers par mois déjà cet été, l'été dernier. Un drone Mavic, je sais pas si vous voyez ce que c'est des drones qu'on peut acheter dans le civil, hein, d'origine chinoise. En général, il y a un an, il avait.
Un drone à hélice.
Exactement, oui, vous pouvez vous en procurer, bon, pour d'autres usages, j'imagine. Mais donc, on estimait, il y a un an, qu'il avait à peu près trois missions de vie. Voilà, après ça va être détruit. Donc il faut vraiment un flux continu de drones qui permettent d'assurer le fait qu'ils pullulent sur le champ de bataille.
Il y a parmi ces drones, il y a aussi les drones FPV pour First Person View, qui sont pilotés à distance par opérateurs dotés d'un casque de VR. Tués via drone, j'imagine que ça crée aussi un nouveau rapport à la guerre, Jean-Christophe Noël.
Alors, c'est effectivement, depuis que les drones sont arrivés, il y a beaucoup de questions éthiques qui se sont posées. Au début, elles se sont posées, vous savez, avec les grands drones, et c'était surtout des missions de décapitation. C'est-à-dire, on était dans cette phase de contre-insurrection, et on cherchait à éliminer des chefs terroristes, enfin, des chefs, etc. Et souvent, il n'y a pas besoin d'aller au contact. Une dernière fois, on est allé au contact, c'est pour Ben Laden. D'ailleurs, ça veut bien dire quelque chose en termes de symboles, etc. Mais c'était plus facile, la guerre semblait plus facile, en tout cas, quand on arrivait un petit peu à tuer à distance. Comme ça. Aujourd'hui, je pense que la logique est un petit peu différente, parce que autant, quand on cherchait à décapiter justement ces organisations, un opérateur pouvait être à des centaines de kilomètres. Aujourd'hui, un opérateur de drone FPV, si vous voulez, la portée de ces drones, elle n'est pas immense non plus. Il n'est pas loin du champ de bataille. Donc lui aussi risque sa vie. Et lui aussi risque d'être victime d'un tir d'artillerie, d'un autre drone, etc., etc. Donc on revient dans une logique un petit peu plus habituel, mais il est vrai que les armements aujourd'hui ont tendance à avoir un rayon d'action incroyable, ce qui explique qu'il y a une dilatation vraiment du champ de bataille qui pose d'autres problèmes.
Xavier Pascaud, au vu de ce qui se passe actuellement, pourquoi peut-on s'attendre à l'avenir à une dronisation de tous les corps de l'armée ?
Ben, précisément, je pense que il y a cette idée finalement de rendre les choses plus flexibles, plus plastiques, plus rapides, en fait de raccourcir les boucles. La réalité, c'est que la numérisation, quand elle s'est rapprochée de toutes ces technologies d'armement aéronautique ou spatial, elle a eu pour premier objectif, en fait, de raccourcir ce qu'on appelle la boucle qui permet d'observer, d'orienter, de décider et d'agir, hein, qui est la boucle classique des militaires. Et si vous voulez avoir la supériorité dans un combat conventionnel, et vous allez chercher à faire en sorte que votre boucle, votre capacité d'agir et à prendre l'initiative soit plus rapide que celle de l'adversaire. Vous vous mettez dans sa propre boucle, en quelque sorte. Et là, le numérique est très utile. Parce qu'il vous permet de collecter de l'information très rapidement, de la transmettre, de la traiter très rapidement et de la disséminer, de vous retransmettre l'info dont vous avez besoin dans des temps raccourcis. Et donc finalement, les drones correspondent aussi à cette manière de faire, c'est ce que disait Jean-Christophe Noël, c'est-à-dire qu'on a des finalement une capacité à agir, alors peut-être avec des distances plus ou moins grandes, mais qui surtout permettent une grande flexibilité.
Alors la guerre moderne investit donc de nouveaux champs géographiques à très haute altitude, au fond marin. Comment la France prévoit-elle son armement de demain ? On y vient.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture avec Xavier Pascaud, Jean-Christophe Noël et Olivier Lascar, nous parlons des nouvelles technologies au service des guerres du futur. Cette émission est en partenariat avec le magazine Science et Avenir. On vient de voir qu'il y a une dichotomie sur les champs de bataille actuels. Donc on voit soit de la technologie de pointe, soit de la technologie peu chère grâce à la digitalisation. La dronisation des armées est en France une priorité de la loi de la programmation militaire 2024-2030. La France, je le rappelle, se classe au 10e rang des pays aux plus fortes dépenses militaires. Alors, Jean-Christophe Noël, comment la France envisage-t-elle justement sa conception de drones à l'avenir ? On a besoin d'une base industrielle capable de produire massivement des drones ?
Oui, tout à fait. Comme je vous dis, un des enseignements de l'Ukraine, c'est cette drones-nisation. Il est reconnu dans cette loi de programmation militaire, donc il faut s'attendre à avoir effectivement des drones qui vont apparaître. Mais en fait, quand on parle de drones, on ne dit rien parce qu'il y a tellement d'engins différents. Vous pouvez parler d'un nanodrone, c'est un drone tout petit qui va venir se glisser peut-être sous une porte, simplement pour aller écouter une réunion, et puis évidemment vous avez les drones qui sont intercontinentaux, donc qui vont par exemple des États-Unis vers une autre zone, etc., pour observer, pour écouter, etc. Donc en fait, drone, ça représente tellement de choses qu'il faut un petit peu étudier section par section. En Ukraine, il se passe des choses. Donc, par exemple, vous avez les drones navals qui sont très très intéressants. La marine va commencer à les développer. Dans l'armée de l'air, c'est d'autres logiques. Dans l'armée de terre, c'est encore d'autres logiques avec justement le problème en fait de la constante évolution, de la constante innovation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, ça servirait pas à grand-chose de développer des drones pour un certain besoin. Si vous retrouviez forcément en guerre, peut-être que vous auriez besoin d'autres drones pour d'autres besoins, ils pourraient déjà être dépassés. En fait, ce qui est plus important, c'est d'avoir un espèce de tissu industriel qui vous permette de monter très rapidement en gamme, et surtout de pouvoir assurer cette espèce de destruction-innovation continue, qui est vraiment, qui parfois en Ukraine, c'est en termes de semaines, quoi. Vous avez des nouveaux modes d'action qui apparaissent.
Par rapport justement à ces nouveaux drones, l'Agence de l'innovation de défense a lancé il y a 3 ans 2 programmes de drones suicides. Donc depuis 2023, on en possède des drones suicides efficaces. Et là, en ce moment, Xavier Pascaud, sur quel type de démonstrateur technologique travaille en ce moment l'AID ?
Je ne sais pas exactement aujourd'hui si on a une parfaite connaissance de ces programmes, mais effectivement, les drones, ça a plusieurs fonctions. Hein. Ça a une fonction pour certains d'observation, une fonction de télécommunication aussi, et puis une fonction d'action. C'est-à-dire qu'on a des drones, on parlait des drones kamikazes, on a des drones qui, et on le voit tout à fait, hein, aujourd'hui, il me semble, sauf erreur, que ce sont les drones qui font le plus de morts sur le champ de bataille, parmi les systèmes d'armes qui sont utilisés, ce qui est assez incroyable en réalité. Et donc, tout ce qui est dans le champ de l'innovation autour de ces drones, y compris en matière de connectivité, en matière de d'usage, par exemple, semi-autonome, peut-être. On peut imaginer que, par exemple, on en reparlera peut-être, l'intelligence artificielle, avec les progrès qu'on peut attendre sur ces concepts-là, et même si on sait que le mot lui-même, l'expression d'intelligence artificielle est parfois trompeur, bien on peut imaginer que ces systèmes-là deviennent partiellement autonomes. On commence à parler de systèmes autonomes, par exemple. On a dans des sociétés américaines qui, lors de certaines démonstrations, montrent des robots quadrupèdes, parfois, qui savent se diriger eux-mêmes. Bon, on voit bien que c'est bouillonnant. C'est difficile de faire la part des choses entre l'expérimental et l'opérationnel, parfois. Il y a beaucoup de stratégie de marketing. Donc tout ça est encore peu stabilisé. Je pense qu'une organisation comme l'Agence d'innovation de défense, par exemple, typiquement, c'est son rôle que de faire la part des choses entre l'expérimental et ce qui peut devenir plus ou moins opérationnel.
Olivier Lascar, je disais en tout cas en préparant cette émission, voilà que l'AID travaille en ce moment par exemple sur un démonstrateur dessin de drones.
Oui, oui, on a dans ce dossier de couverture de Science et Avenir qu'on a titré Les Nouvelles Armes. Un entretien avec Patrick Aufort, le directeur de l'Agence de l'innovation de défense, qui parle, Natacha, de ces drones. Il y a des noms qui sont cités. Il y a un programme ou une catégorie de drones qui s'appelle Oscar, par exemple. Drone suicide, c'est finalement... Il ne s'agit que de munitions téléguidées, quoi, de téléopérées. Le terme même de drone est un petit peu fourre-tout. C'est comme intelligence artificielle. C'est effectivement, ça. Ce sont des expressions qui sont difficiles à manier parce qu'on peut mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Mais effectivement, comme vous le disiez, Natacha, la problématique des essaims est un sujet sur lequel les ingénieurs travaillent, puisque l'idée, c'est de faire en sorte que les petits drones, qui peuvent être effectivement en forme nue, comme c'était dit par Monsieur Noël, peuvent collaborer les uns avec les autres pour que les informations engrangées par l'un soient communiquées à son voisin et de proche en proche, adopter comme ça un comportement émergent qui n'aura pas pu être programmé a priori par les techniciens et les ingénieurs. Ça pose la question de la capacité de décision qui serait déportée au drone. Et c'est une question qui est assez effrayante.
En effet, avec toutes les questions éthiques que ça soulève, on a aussi dans ces drones des drones sous-marins. Ça permet de changer de zone géographique. Des drones sous-marins capables de mener des opérations militaires, des missions de sabotage. Ça montre donc que les fonds océaniques se sont transformés en nouveaux espaces de conflit. Xavier Pascaud, pourquoi les fonds sous-marins sont-ils des lieux stratégiques d'expression des rapports de force ?
Alors. Pour plusieurs raisons. D'abord, on a. C'est un milieu où s'exprime l'activité militaire. Et pas n'importe laquelle, en particulier celle qui est liée à la dissuasion, par exemple, avec les sous-marins qui sont porteurs de missiles intercontinentaux, nucléaires, et qui garantissent pour un certain nombre de pays leur capacité à dissuader leur adversaire de les attaquer. Les États-Unis, la Russie, la Chine, la France ont ce type de capacité. Donc il y a toujours une course, en réalité, à la connaissance des fonds marins, des fonds sous-marins, et à la protection des objets qui y sont. Et puis il y a un autre aspect qui concerne aussi les câbles sous-marins, qui aujourd'hui sont de plus en plus importants pour transporter l'information. Il faut savoir que les câbles sous-marins, ça transporte à peu près plus de 95% de l'Internet. Et les satellites, à ce titre, c'est seulement 2 ou 3% de la connectivité. Alors, après, ça ne s'oppose pas, ça se complète en réalité, le plus souvent, mais les câbles sous-marins, on le voit bien, et on a vu un certain nombre d'actions qui ont été menées sur les câbles sous-marins, que ce soit d'ailleurs au nord ou que ce soit vers le Yémen, par exemple, où on a eu vraiment des actions très fortes, qui ont eu des conséquences très fortes sur l'ensemble des sociétés, et pas seulement sur le plan militaire. Bon, tout ça conduit à une augmentation des investissements pour défendre, protéger, mieux savoir, mieux connaître, mieux agir.
Justement, Jean-Christophe Noël, après le New Space, on parle maintenant aussi de New Seabed. Comment la France envisage-t-elle sa future défense, elle qui a le deuxième plus grand domaine maritime au monde ?
Alors, c'est justement un souci, c'est-à-dire qu'on avait un tel domaine à protéger. En fait, ces câbles sous-marins, donc ils sont répartis partout, évidemment, sous l'océan. Donc c'est quelque chose qui est très difficile. Alors, déjà, c'est quelque chose qui est ancien, c'est cette guerre sous les deux câbles. Dans la Première Guerre mondiale, vous avez des câbles télégraphiques qui reliaient, par exemple, les États-Unis au continent européen, et britanniques et allemands essayaient les uns de les détruire, les autres de les protéger, enfin, etc. Donc, on est vraiment dans une espèce de continuité, et voilà. Alors, il y a eu quelques actions, pas forcément d'ailleurs sur des câbles de télécommunication. On a vu récemment en mer Baltique, où c'était des câbles qui apportaient de l'énergie, qui ont été tranchés. il semble-t-il, par des bateaux, ou à le feu un peu chinois, où il y avait un russe qui les commandait, enfin, c'était quelque chose d'assez hybride, qui les tranchait. Et donc, les pays ont commencé à prendre des mesures pour essayer de le protéger. Évident que plus vous avez besoin d'une permanence et plus vous allez dans les fonds marins, moins l'homme est pertinent. Et c'est là où, en fait, le drone peut être très intéressant et peut apporter une espèce de complément, encore une fois. Mais il faut bien comprendre que, compte tenu de l'étendue, de l'immensité des océans, c'est très difficile justement d'avoir cette étendue. Donc c'est encore quelque chose qui est en cours de réflexion et qui verra sûrement des évolutions très importantes dans l'avenir. En tout cas, pour avoir cette permanence un peu partout.
Pour cette évolution importante, en effet, il y a dans la loi de programmation militaire 2024-2030, la France prévoit de se doter de moyens d'intervention, robots, drones, jusqu'à une profondeur de 6000 mètres. Olivier Lascar, il y a aussi tout le volet de l'arsenal de sous-marins également.
Oui, alors il y a un sous-marin russe qui s'appelle le Lokarik, par exemple, hein, qui a fait couler pas mal d'encre, numérique ou pas, qui serait un engin. Les sous-marins qu'on s'imagine tous militaires, ça va à 300 mètres de profondeur. Le Lokarik serait capable d'aller bien plus profondément, à des profondeurs abyssales, parfois même jusqu'au plancher océanique, ou en tout cas à s'en approcher. La profondeur moyenne du plancher océanique, c'est à peu près 4000 mètres de profondeur. Et le Lokarik serait doté d'un appareil qu'il transporterait sous son ventre, en quelque sorte, lui-même doté de bras télescopiques, des bras sécateurs, capable de couper les câbles de télécommunication. Donc il y a effectivement un arsenal assez étonnant qui est en train de se mettre en place. Il faut dire aussi que si le fond des océans devient un nouveau terrain de tensions géopolitiques, c'est parce qu'il y a aussi le champ minier qui est en train de s'ouvrir, la question des gisements miniers avec ces métaux qui sont particulièrement intéressants pour les énergies de transition et dont on se rend compte maintenant que les nodules polymétalliques, les encroûtements cobaltifères, tout ce qui recouvre les sources hydrothermales, en regorge. En tout cas, il y a là des quantités intéressantes, ce qui fait que de nombreux pays dans le monde, Trump vient de signer un de ses décrets, Trump vient de signer le décret pour pousser les industriels à aller vers ce type d'exploitation. Donc évidemment, si ça a lieu, il faudra faire la police, il faudra voir si les gisements de l'un ne sont pas visités par d'autres, etc. Donc les militaires se mettent aussi sur cette question-là.
Xavier Pascaud, pour les militaires et pour ces sous-marins, notamment la troisième génération de sous-marins nucléaires qui est actuellement en construction, on voit surtout des enjeux de discrétion qui entourent ces engins.
Oui, alors c'est un combat constant en réalité, c'est-à-dire qu'effectivement il y a cet aspect de dilution, hein, c'est ce qu'on appelle la dilution, ces sous-marins doivent se diluer dans l'ensemble océanique pour assurer finalement la permanence de cette menace dissuasive, etc. Et finalement, que ce soit dans le monde sous-marin ou dans d'autres milieux, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a une course constante entre la connaissance du milieu et l'invisibilité dans ce milieu. Et finalement, on perfectionne les technologies de capteurs. On peut, là encore, et c'est une autre forme d'IA, imaginer qu'un certain nombre de signaux, désormais, puissent être analysés par des formes d'IA qui puissent en faire une information pertinente. Et de l'autre côté, on va avoir ce qu'on appelle des contre-mesures qui vont essayer de faire en sorte de brouiller précisément la capacité de ces moyens de collecter des signaux pour disparaître dans le bruit. Et ça, je dirais que aujourd'hui, c'est particulièrement apparent, mais c'est quelque chose d'historique et de constant.
Jean-Christophe Noël, sur ces enjeux justement autour des futurs sous-marins.
Alors oui, effectivement, donc c'est quelque chose qui est essentiel pour la dissuasion doit être crédible pour fonctionner. Effectivement, donc si vous avez, on a deux composantes en France, une aérienne et une sous-marine, et on ne peut pas se permettre que l'une ou l'autre flanche, sinon c'est forcément, vous ne marchez plus que sur un pied. Alors les sous-marins, en fait, depuis leur conception, et notamment chez les Occidentaux, hein, sont des machines qui sont vraiment très très silencieuses. Il faut imaginer que vous construisez un sous-marin déjà en mettant des matériaux, enfin, avec une structure, etc., qui est la plus silencieuse possible. Et en plus, vous allez mettre une espèce d'insonorisation tout autour qui permet parfois donc à ces sous-marins d'être encore plus discrets que le bruit ambiant. Donc c'est pour vous dire au niveau de précision à laquelle on arrive. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on se doute qu'il va y avoir plus de capteurs. On se doute, par exemple, qu'il va y avoir des capteurs magnétiques. Tiens, ça veut dire que s'ils sonnent, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose qui ne devrait pas être là et qui bouge. Il y a les satellites, etc. Donc il y a un vrai enjeu. Mais je dirais que cette avance occidentale quand on regarde, quand on lit les experts, par exemple, il y a un journal qui fait référence, qui s'appelle le journal Strategic Studies, qui vient de sortir vraiment un gros dossier justement sur les nouvelles technologies et ce que les dissuasions pourront rester pertinentes, dit que voilà, en gros, dans les 20 prochaines années, on voit pas d'évolution technologique qui pourrait remettre en cause ce silence des sous-marins. Mais c'est un avantage occidental. Il faut savoir par exemple que les Soviétiques, voire les Russes, et les Chinois, alors les Chinois, on est en train de voir, ça évolue très vite. Mais eux avaient l'habitude plutôt de travailler ce qu'on appelle en bastion. C'est-à-dire que leur sous-marin faisait beaucoup de bruit. Et dès qu'ils sortaient, vous pouviez être sûr que vous avez beaucoup de gens derrière qui étaient prêts éventuellement à les frapper en cas de crise. Et eux, ils restaient plutôt au bord, on va dire, des ports, etc. Donc ils partaient un petit peu. Et ils avaient l'intention de tirer leur missile nucléaire depuis ces positions. On va voir également si ça va évoluer dans le temps.
Alors que côté occidental, la stratégie plutôt à la discrétion. Alors comment, par l'autre volet de la dissuasion nucléaire océanique, c'est aussi quelque chose lancé en 2020 par Emmanuel Macron, il s'agit du programme porte-avions de nouvelle génération. Quelles sont les menaces de demain qui justifient la fabrication d'un nouvel avion de chasse? Quelles sont les ambitions des futurs avions de combat? Restez à l'écoute.
This is an African tribal chant that we wrote called Suppose They Give a War and No One Comes. Nana Lala! Ula Wanga! Nana Lala! Wunga Ula! Running in the street. I have seen small children starving. I have seen the agony of fellows and wives. I hate war.
Suppose they give a war and no one comes. The West Coast Pop Art Experimental Band en direct sur France Culture, car nous parlons des guerres de demain et plus exactement des futures technologies militaires. On en parle avec nos trois invités du jour. Xavier Pascaud, spécialiste de la politique spatiale américaine et directeur de la FRS. Jean-Christophe Noël, chercheur associé à l'IRFI, ancien officier de l'armée de l'air et rédacteur en chef de la revue Vortex. Olivier Lascar, rédacteur en chef du pôle numérique de Science et Avenir. Cette émission est en partenariat avec notre magazine partenaire. On vient de voir que l'on assiste à l'évolution de ce qu'est un armement, que le numérique aujourd'hui est la sève de nos nouveaux conflits et que la dronisation du ciel est une tendance majeure pour l'aviation militaire. Xavier Pascaud, justement, cette aviation du futur, elle ne pourra pas être pensée sans drone, sans drone, dronisation et connectivité.
Oui, ben là encore, je crois que c'est le champ d'expression, alors là pour le coup, caractéristique de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement la numérisation là règne en maître avec désormais des appareils qui fonctionnent en réseau, qui fonctionnent en essaim le cas échéant, avec pour partie des appareils qui seront pilotés, d'autres des appareils qui ne seront pas, qui seront des drones, et finalement les avions apparaissent désormais dans certains concepts, comme le concept du système de combat aérien futur par exemple, alors qui reste aujourd'hui en termes de concept, mais un avion c'est d'abord un nœud de réseau. C'est d'abord un nœud de réseau qui peut opérer plusieurs fonctions, mais qui a sans doute pour fonction centrale d'organiser autour de lui un ensemble qui va agir militairement de façon adaptée à l'objectif, à la mission, etc., avec cette plasticité permanente. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui sans doute le défi principal, parce que, in fine, ça pose aussi la question de l'homme et de l'utilisateur humain dans cet ensemble qui est un ensemble hybride. Et ça, c'est sans doute aussi un des défis majeurs de ces systèmes.
Oui, quels que soient les avions, ils vont devoir donc communiquer et être en connectivité les uns aux autres. Jean-Christophe Noël, quels seront justement ces futurs avions de demain ? On a entendu parler des F-5 ou encore des NGF pour Next Generation Fighter.
Oui, alors effectivement, en fait, on parle de génération d'avions. Alors, il faut savoir que c'était un argument mercantile des Américains, qui apparaît au moment des années 80-90, en fait, ils étaient en train de développer un avion qui était très ambitieux, qui s'appelle aujourd'hui le F-35. Et ils voulaient montrer qu'il y avait une vraie rupture avec le passé. Ils ont dit, regardez, on est en train de développer un avion qui est furtif. Regardez, on va développer un avion qui est connecté. Regardez, ça n'a rien à voir avec les autres, c'est une nouvelle génération. Et donc, cet argument est devenu aujourd'hui une espèce de référence. Alors, on est en ce moment dans le développement des avions de cinquième génération, qui n'est pas fini. Mais déjà, on voit apparaître ces avions, les projets, on va dire, de ces avions de sixième génération. Au début de l'année, vous avez les Chinois qui ont fait voler deux prototypes, le J-36, le J-50. Les Américains viennent d'annoncer le F-47 avec Donald Trump. Les Européens, notamment les Français, sont en train de développer un projet que Xavier Pascaux l'évoquait à l'heure avec le SCAF. En fait, tous ces avions, effectivement, on va chercher. Alors, ça n'est plus un avion classique, c'est plus un avion de chasse, si vous voulez, ou qui est une espèce de superbe Formule 1 où vous allez avoir tous les capteurs dedans, etc. Ce que vous allez faire, vous allez déporter beaucoup de choses. Et donc, il y a beaucoup de réflexions pour savoir, en fait, quelle est la meilleure manière de déporter tous ces ensembles pour que ça devienne efficace. Alors, ce qui est parfois, il y a une image qui est évoquée, surtout les Américains, puisqu'ils jouent au football américain, ils disent, voilà, si vous voulez, l'avion, ce serait le linebacker. Vous savez, c'est celui qui lance la balle dans un match de football américain. Et au lieu de lancer une balle, il va lancer des drones. Il va lancer des drones qui seront spécialisés dans certaines tâches, par exemple. Ça peut être le brouillage, ça peut être l'attaque de radar, ça peut être plein d'autres choses. Et lui, il va un petit peu être là, il va régir un petit peu ce combat aérien, il va avoir différents instruments à sa disposition, il va les envoyer. Et donc, on est un petit peu dans cette réflexion, c'est-à-dire donc plus quelque chose, comme disait Xavier Pascaux, qui est vraiment centré sur le pilote, mais cette fois, beaucoup d'engins dans le ciel, peut-être avec moins performants, mais qui sont beaucoup plus, qui sont meilleurs, en tout cas, pour accomplir certaines fonctions.
Des drones pour sécuriser aussi l'espace aérien. Parmi ces engins, donc le NGF, on ne connaît pas toutes les caractéristiques, mais ils sont censés être d'une furtivité accrue. Jean-Christophe Noël, comment on augmente la furtivité des avions de chasse ? Comment technologiquement ça se fabrique, ça, la discrétion d'un tel appareil ?
Alors, il faut savoir qu'un avion furtif est surtout furtif au radar. C'est-à-dire, en fait, vous allez évidemment, quand il va se poser sur une piste, on va évidemment le voir, etc. Et donc, en fait, vous allez. Il y a de nombreuses études des Américains dans les années 60-70. On comprend très facilement, par exemple, quand vous regardez les chiffres des guerres aériennes, vous apercevez que dans 80% des cas, un avion arrive à en abattre un autre parce que celui qui a battu ne l'avait pas vu. Donc c'est quand même un avantage assez intéressant. Et puis plus logiquement, on voit bien que si vous ne savez pas où est votre adversaire, ça va être compliqué de l'abattre. Donc les Américains sont partis dans cette voie. C'est souvent c'est les formes de l'avion qui comptent beaucoup pour que, on va dire, les ondes radar soient pas absorbées, mais en tout cas, aient du mal à retourner vers le récepteur. C'est aussi les composants. C'est des choses comme ça qui ont fait, et les Américains se sont améliorés. Et donc ce premier avion qui était très connu pendant la guerre du Golfe, le F-117, ils ont continué cet apprentissage. Aujourd'hui, ils sont plutôt dans le tout furtif. Et donc, ils ont des avions de chasse, ils ont des bombardiers, etc. etc. Alors la vraie question aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que cette furtivité, finalement, va être l'arme absolue dans l'avenir, ou est-ce qu'il va y avoir aussi des contre-mesures, puisque c'est un peu le thème de l'émission, on voit qu'il y a beaucoup de contre-mesures. Et quelque chose, par exemple, qui inquiète un peu les Américains, et on parlera sûrement de l'espace après, c'est toutes ces constellations de satellites qui sont autour de la Terre, et qui sont capables de regarder vers le bas. Et si vous avez un avion, et forcément un avion, bah, il va émettre des signaux, etc., vous avez des satellites qui sont capables de repérer plus ou moins ces signaux, de discuter entre eux, etc., peut-être on va commencer à pouvoir voir cet avion furtif, non pas parce qu'il est furtif au radar, mais parce qu'il n'est pas furtif justement à tous ces autres capteurs.
Olivier Lascar.
Oui, j'aurais voulu qu'on revienne une seconde sur cet avion du futur que vous avez cité, Natacha, le NGF, qui est appelé à être le remplaçant du Rafale. Alors, est-ce à dire que le Rafale est un avion qui est déjà frappé d'obsolescence ? Enfin, déjà, c'est pas... Il a quand même un peu d'heure de vol sous le capot, mais oui. Est-ce qu'il est temps de passer à autre chose ?
Écoutez, c'est un avion, l'armée de l'air en est très contente, hein, Quand justement il y a eu l'invasion de l'Ukraine, l'armée de l'air a envoyé tout de suite des avions à la frontière est pour protéger les cieux, ça s'est bien passé.
Et pour le dire autrement, qu'est-ce que le NGF fera que ne peut pas faire le Rafale?
Ça sera toute une architecture en fait. C'est une architecture qui est recréée tout autour. Alors ça, c'est un avion forcément qui aura une furtivité. Le Rafale n'est pas furtif. Le NGF nativement sera furtif. C'est-à-dire on va donc le concevoir comme quelque chose de furtif. On va évidemment essayer d'optimiser toute cette connectivité. Donc il va être aussi pensé pour ça et donc avec différentes familles de drones qui vont être optimisées. Parce qu'en fait le NGF c'est une chose, mais ce qu'il faut bien comprendre c'est le SCAF. C'est ce que disait Xavier Pascoe. C'est cette espèce de système en fait qui est important. Et le NGF est une des parties de ce système, mais c'est tout le système qu'on va reconsidérer. Quand vous avez le Rafale, vous avez cet avion qui comprend tout, mais là on est dans une autre logique, on va dire, de conception de structure.
On poursuit sur l'innovation technologique au service des armées avec leur reportage du jour. L'artillerie de défense concerne aussi les moyens de surveillance et de sauvetage. Pour baliser en discrétion une zone de conflit, la robotique fournit des moyens innovants et adaptés aux contraintes de terrain. On continue d'en parler avec vous, Céline Lozen. Bonjour.
Bonjour, Natacha.
Vous êtes allée au Centre interdisciplinaire d'études pour la défense et la sécurité, à l'Institut Polytechnique, pour découvrir un tout nouveau robot.
Et oui, son nom est Barracuda, un véhicule quasi autonome qui peut patrouiller, identifier des formes et s'adapter aux obstacles du terrain. Il a été conçu dans le cadre du Challenge Mobilex, avec comme objectif de catalyser l'innovation sur la mobilité en écosystème réel. David Filia, directeur scientifique du centre et professeur à l'ENSTA, nous dévoile ce robot muni d'un arsenal de capteurs et d'IA en conférant des compétences en termes de perception, prise de décision et d'action.
Ici, on travaille vraiment en intérieur avec des petits drones. Voilà, de ce type-là, donc c'est des drones qui font une vingtaine de centimètres, donc ils peuvent voler en toute sécurité en intérieur, et il y a un système de caméra de localisation qui peut faire voler plusieurs drones. Là c'est quelque chose qui est beaucoup plus utilisé pour l'enseignement. On fait un petit peu de recherche aussi là-dessus, et on a un grand projet en ce moment de construire une grande volière extérieure pour faire voler des grands drones, une volière qui fait une douzaine de mètres de haut, 700 mètres carrés. Donc on va arriver dans le garage où on a nos robots. Donc on a...
Ah, déjà là, il y a un véhicule qui sort.
Bonjour. Ouais, donc c'est un robot qui est assez gros, il fait de l'ordre de 500 kg. Il fait à peu près 2 mètres, 1 mètre de hauteur, 2 mètres de longueur, 1 mètre 50 de largeur. Donc c'est par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir dans les laboratoires de recherche. C'est effectivement des plateformes qui sont assez grosses, qui sont un peu plus proches de ce qui est vraiment utilisé dans les opérations réelles pour la défense ou dans le milieu industriel.
Et quels sont les instruments ou les capteurs qu'on peut retrouver
Voilà, donc le robot qui nous est fourni, il y a la base mobile avec son chargeur, système de sécurité. Et donc chacune des équipes doit ajouter sur cette base-là des capteurs, des calculateurs et tous les algorithmes nécessaires pour faire la navigation. Donc nous, sur ce robot-là, une architecture assez classique en robotique, mais on a un ensemble de calculateurs qui sont dans des boîtiers étanches sur le robot. Donc c'est des cartes de contrôle, notamment qui peuvent faire des calculs avec de l'intelligence artificielle, donc c'est des processeurs NVIDIA. Donc c'est le cœur du système. Et ensuite, en termes de capteurs, alors le capteur principal sur lequel on travaille, c'est ce qu'on appelle un LIDAR, donc c'est un télémètre laser à balayage. Donc c'est un capteur en fait qui utilise des faisceaux laser qui tournent autour du capteur et qui permettent de détecter la distance des obstacles. Et donc nous on utilise un capteur avec une forme un petit peu particulière, c'est un dôme. Donc il y a des faisceaux laser qui tournent, qui partent à 45 degrés et qui tournent autour. Et donc on voit tout ce qui est à l'avant du capteur. Et donc notamment il est positionné à l'avant du robot de manière à voir de manière très précise juste l'avant du robot, juste devant les roues. Notamment pour éviter des trous et faire de la navigation.
Ça permet d'éviter les obstacles, c'est ça l'enjeu de la perception aussi.
C'est ça, donc ça va être le capteur principal pour la perception. Et donc les enjeux, effectivement, c'est d'avoir... on s'en sert déjà pour estimer sa position, pour savoir où on est, en essayant de ne pas utiliser le GPS autant que possible, parce que c'est un capteur qui est très brouillé dans les applications défense. Et ensuite, l'enjeu, effectivement, c'est de détecter les obstacles, détecter les zones de passage.
La prise de décision se fait donc au niveau du cerveau, donc dans... Comment on réagit en fait en situation complexe?
Ouais. Alors en fait, il y a toute une architecture qui est assez compliquée en robotique en général, avec plusieurs niveaux de décision. C'est-à-dire quand on doit rejoindre un point, déjà, à partir de la connaissance de l'environnement, de la carte qu'on a, on se fait une idée grossière du chemin à suivre. Donc on sait que voilà, on va aller par là, puis tourner à gauche un petit peu plus loin. Puis après, pendant le suivi de chemin, bah, il peut s'avérer qu'il y a un trou qu'on n'avait pas vu de loin, par exemple. Et donc il y a un deuxième niveau qui est plus rapide, plus de sécurité, donc qui va juste regarder juste devant le robot pour éviter les obstacles qui étaient imprévus et donc adapter le chemin pour aller...
Tout seul en autonomie, il est capable de...
Voilà, alors tout l'enjeu, c'est que ça soit suffisamment autonome pour qu'il n'y ait pas besoin d'intervention humaine. Bon, après, c'est des systèmes où il y a toujours un humain dans la boucle et si le robot est coincé, ben, l'humain peut guider. Mais l'enjeu, oui, c'est effectivement de faire tout ça de manière autonome. Et donc, on a aussi des caméras stéréo qui est juste au-dessus, qui regarde vers l'avant aussi. Donc là, on a deux caméras et donc les deux caméras donnent deux points de vue différents sur la scène. Et avec ça, on peut avoir la distance aux obstacles. Donc on a une image couleur plus une image de la distance. Un petit peu comme le télémètre laser qui lui donne que la distance.
En intelligence artificielle et en vision artificielle, on parle beaucoup de machine learning. On apprend à labelliser, référencer tout type d'objets ou de figures. Est-ce que c'est un travail qui a été fait justement pour la mise en œuvre de ce véhicule?
Oui, alors on mélange un peu différentes approches. C'est-à-dire qu'à la base, on a déjà un système qui utilise peu d'intelligence artificielle, qui va regarder vraiment la géométrie des obstacles. Donc si on voit un obstacle, bon, quelque chose devant nous, on décide que c'est un obstacle et il faut le contourner. Mais ça, voilà, s'il y a des herbes un peu hautes ou des broussailles, des buissons, bah, du coup, le robot ne va pas passer. Alors que pour les applications défense, il ne faut pas s'arrêter voilà, sur des petits obstacles qui sont facilement franchissables. Et donc, voilà, pour faire la différence sur ces obstacles un peu plus compliqués à analyser, là, c'est vraiment beaucoup d'intelligence artificielle. Donc ensuite, on a d'autres caméras, une caméra visible et infrarouge qui sont sur le sommet du robot, là, qui sont plutôt pour la mission du robot. Donc, on ne va pas s'en servir vraiment pour naviguer. Par contre, pour observer une cible à distance ou observer ce qui se passe autour du robot, faire de la surveillance la nuit, on va servir de cette deuxième caméra. Et puis, là aussi, on essaye de s'en passer le plus possible, mais on a les systèmes GPS. Donc, on a deux antennes GPS qui nous permettent d'avoir une localisation relativement précise, une estimation de l'orientation, et une centrale inertielle qui permet de traiter les données du GPS, les données de mouvement du robot pour avoir une estimation plus précise possible. Donc on a toujours besoin un petit peu de GPS pour savoir où on est, si on nous donne une coordonnée à rejoindre. Mais après, pour naviguer, on essaye de s'en passer au maximum. Et donc notamment, on utilise la vision ou le télémètre laser pour faire de la cartographie qui va nous donner une estimation précise du déplacement du robot. Il va nous permettre de rejoindre un point, même si jamais on perd le GPS ou si le GPS est pourri. Voilà, et pour finir sur l'équipement du robot, il y a aussi des moyens de communication qui permettent de le téléopérer à distance. Donc ça, c'est toujours quelque chose de très compliqué. Pareil, dans le milieu défense, les communications sont très brouillées, très, très difficiles à atteindre. Mais on a besoin de garder un contrôle sur le robot. Donc voilà, on a des systèmes de communication raisonnables. Et après, on a des stratégies de navigation qui permettent de réagir quand on perd la communication. Par exemple, le robot, là, s'il perd la communication, il va faire une marche arrière, il va refaire la même trajectoire en marche arrière jusqu'à retrouver les moyens de communication. Et puis d'un point de vue recherche purement académique, on a besoin de sécurité, il faut pouvoir arrêter le robot, donc on a besoin toujours d'avoir un lien de communication. Donc voilà, c'est un sujet qui est toujours compliqué d'un point de vue expérimental en robotique.
Merci Céline Lezenne. Tous nos reportages en immersion sont à retrouver en podcast dans la collection La Science au Labo, sur votre application préférée, l'appli Radio France bien sûr. Alors pour réussir tout ce qu'on vient de décrire depuis le début de l'émission, il faut s'assurer donc d'avoir une bonne maîtrise du spatial. On a évoqué déjà en première partie d'émission la cyberattaque de la Russie contre l'Ukraine. Xavier Pascaud, l'histoire récente nous montre donc que la guerre peut aller dans l'espace. Comment la France s'y prépare-t-elle ?
D'abord, la France a pris conscience, mais avec d'autres pays, hein, que l'espace était devenu un milieu en tant que tel. Alors, vu du monde militaire, un milieu, ça veut dire quelque chose dans lequel on va pouvoir bouger, manœuvrer, et dans lequel on va pouvoir agir. Alors, je dis ça parce que ce n'est pas si évident que ça, il y a encore une vingtaine d'années, l'espace était surtout un point haut, où on observait, mais le lien était entre l'espace et la Terre. Et puis, à partir du moment où les satellites ont pris un rôle de plus en plus grand dans les opérations militaires elles-mêmes, bah, évidemment, ils ont été vus ipso facto comme des cibles possibles, ciblées par l'adversaire. Et donc, il faut les protéger. Et donc, à partir de là, toute une logique se met en place qui conduit à concevoir des systèmes qu'on appelle contre-spatiaux, qui vont devoir protéger, voire éventuellement aller toucher un système adverse. Et alors là, on entre dans une toute nouvelle ère, hein, alors depuis déjà pas mal d'années, alors conceptuellement, je dirais, les Américains ont déjà développé pas mal de programmes dans ce sens, la Chine, la Russie, on le sait, investissent aussi, puis la France, eh bien, dans sa stratégie spatiale de défense, hein, qui date de 2019, parle de défense active, par exemple, bah oui, nous aussi, on veut pouvoir observer ce qui se passe, voir si un satellite s'approche d'un de ceux que nous voulons protéger, qui nous est cher, et le cas échéant, s'il s'approche de trop près, on veut pouvoir agir dessus. Ça, c'est tout à fait nouveau, conceptuellement. Et donc, on a quelques programmes qui existent de expérimentaux à ce stade, de satellites guetteurs, par exemple, hein, qui vont surveiller les abords d'un satellite militaire français. D'autres vont éventuellement pouvoir suivre des cibles et agir dessus. On a les programmes Yoda, Toutatis, on est très fort pour des noms rigolos. Et on a voilà, ces programmes qui sont en cours. Expérimentaux à ce stade.
Alors, comme vous dites, la prise de conscience en France, c'est 2019 avec l'élaboration d'une stratégie spatiale de défense par le ministère des Armées. Un commandement de l'espace est créé, mais quels sont plus précisément ce programme Yoda, par exemple, pour guetter les satellites suspects ?
Alors, voilà, c'est un programme expérimental qui a pour but de développer des petits satellites qui vont essayer de scanner un peu l'environnement, par exemple, d'un satellite militaire de télécommunication Syracuse. Alors, en essayant de discerner, détecter d'éventuels satellites butineurs, dit-on, qui, alors il y en a l'exemple, hein, la ministre Florence Parly à l'époque avait évoqué le satellite Olymp Luch, hein, qui est un satellite russe,
oui, en 2023.
Qui vient comme ça, voilà, qui vient essayer d'écouter, de se mettre dans le cône d'activité des satellites pour essayer de transmettre des informations, de collecter des informations, etc. On avait vu ça comme quelque chose d'hostile, hein, comme un satellite qui vient espionner ce que vous faites, surtout sur vos satellites militaires dont vous voulez garder la confidentialité. Donc on se dit, ben, il faut qu'on sache ce qui se passe autour de nos satellites, y compris avec des petits objets qui peuvent venir sans qu'on s'en rende compte depuis le sol, parce que c'est très difficile de voir ce qui se passe à 36 000 km d'altitude. Donc Yoda, c'est ça. C'est censé donner un programme plus opérationnel qui s'appelle Égide, après, hein, qui sera le programme dans quelques années, qui serait le programme plus opérationnel, mais on est dans ce type d'activité aujourd'hui.
Et pour le programme Toutatis ?
Alors le programme Toutatis, c'est un programme, là encore, qui a pour but de essayer de pouvoir agir sur des satellites qui, cette fois-ci, sont en orbite basse, donc qui sont des satellites défilants. Hein. Vous savez que, eh bien, en géostationnaire, finalement, le satellite est synchrone avec la rotation terrestre, donc il reste fixe au-dessus d'un même point. En revanche, en orbite basse, ces satellites défilent à des hautes vitesses. Et là, il faut de la manœuvre, une capacité de manœuvre un peu différente. Et là, on essaye aussi d'avoir des satellites cibles, d'avoir des satellites qui poursuivent ces cibles, etc. Ça, c'est en cours. Et c'est ce fameux programme expérimental Toutatis.
Et puis, parmi les autres programmes, il y a aussi cette constellation européenne de satellites. Pour les télécommunications, Iris.
Voilà, Iris Carré. Iris Alors, effectivement, Carré. Qui est un programme de l'Union européenne, pour le coup, qui a vocation à sécuriser les télécommunications gouvernementales, je dirais la connectivité gouvernementale. Et là, ce sont des satellites. Alors, ce n'est pas l'équivalent de Starlink, hein, au sens où on n'aura pas autant de milliers de satellites. En revanche, ce sont des satellites qui sont technologiquement très, très élaborés pour protéger, y compris des technologies de distribution de clés quantiques, etc., protéger, crypter les informations et les télécommunications gouvernementales. Il se peut aussi que ce système forme la base d'un réseau plus large qui pourrait être utilisé commercialement, par exemple.
Est-ce que la place en orbite basse ne va pas commencer à manquer au bout d'un moment quand même ?
Ça, c'est le grand sujet. Hein. On imagine que, enfin, si on regarde toutes les dépôts qui sont les dépôts de dossiers, de demandes de dossiers qui sont déposés à l'Union internationale des télécommunications, qui est un peu l'organisme qui collecte au plan mondial les projets de satellites, on se dit que d'ici 2035, il pourrait y avoir en 2035 entre 50 et 5000 satellites sur ces orbites basses. Ça pose une question, ça pose une question de gouvernance mondiale de ces systèmes, de code de la route, si j'ose dire, de l'orbite basse, et de coexistence avec les débris, vous avez raison, parce qu'on a aussi ces débris qui sont de plus en plus importants. Donc aujourd'hui, il y a vraiment des questions qui se posent de ce point de vue-là.
Qui témoignent de notre dépendance à ces technologies. Merci à vous trois de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Dans quelques secondes, on écoute Alexandra Delbo, mais pour compléter votre écoute, rendez-vous sur l'appli Radio France. Pour nos précédents épisodes, je vous invite à podcaster, pourquoi pas, IA militaire, drones de guerre, et pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur des scénarios belliqueux à venir, des scénarios crédibles, vous pouvez écouter Red Team, la SF s'en va en guerre. Merci à vous trois, tout de suite. On change complètement de sujet, on regarde le ciel, mais depuis la planète Mars, c'est la chronique avec science.
Existe-t-il des aurores sur Mars? Les aurores, il y en a beaucoup chez nous, sur Terre, surtout vers les pôles. Parfois, elles descendent plus bas. C'est ce qu'il s'est passé en octobre 2024, parce que des tempêtes solaires étaient particulièrement intenses. Quand ces particules de vent solaire viennent cogner les constituants de l'atmosphère, cela produit de la lumière. Et si les aurores se diffusent à partir des pôles, c'est parce que notre champ magnétique prend racine là-bas. Ces phénomènes peuvent donc théoriquement se produire sur n'importe quelle planète, du moment qu'il y a de l'atmosphère, une magnétosphère et une étoile. Seulement sur Mars, on n'était pas certain de pouvoir en observer. Agnès Cousin est astronome adjoint à l'IRAP, l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie à Toulouse, et responsable scientifique de l'instrument SuperCam de Persévérance.
Pendant longtemps, on a cru qu'il n'y aurait pas d'aurore sur Mars à cause du champ magnétique absent et de l'atmosphère très ténue qu'on peut avoir sur Mars. Par contre, les satellites qui sont en orbite autour de Mars, comme MAVEN par exemple, ont pu observer déjà différents types d'aurores dans le domaine de l'UV. Et en fait, les aurores dans le domaine du visible, on les a quand même modélisées depuis quelques temps. On a fini par comprendre qu'elles pourraient être possibles à certaines conditions. Par contre, il faut vraiment qu'il y ait des éjections de masse coronale, en fait, des tempêtes solaires suffisamment fortes pour pouvoir éjecter des particules suffisamment chargées à une vitesse suffisamment importante, etc., pour pouvoir espérer que ces particules soient encore suffisamment fortes, entre guillemets, pour atteindre Mars, puisque Mars est un peu plus loin du Soleil par rapport à la Terre. Ouais.
Des aurores en ultraviolet, oui, mais y en a-t-il dans le domaine visible, dans la gamme de rayonnement que nous pouvons voir avec nos yeux? C'est une question qui est longtemps restée en suspens. Pour tenter d'en observer, il faut les bons instruments et le bon moment. Persévérance est pour cela bien équipée, notamment de la Mastcam Z et surtout de la SuperCam. C'est le couteau suisse du rover. Elle réunit 5 techniques de mesure, composées de 3 spectromètres qui décomposent la lumière, d'une caméra et même d'un micro. Ces instruments ont surtout pour objectif d'analyser les roches martiennes pour y débusquer de potentielles traces de vie, mais on peut s'en servir également pour regarder les aurores si elles se produisent. Et pour qu'elles se produisent, il faut attendre une grosse tempête solaire. C'est ce qu'il s'est passé le 15 mars 2024. Les systèmes de prévision ont envoyé une alerte et les scientifiques ont braqué les instruments vers la région du ciel susceptible de recevoir un flot de particules solaires. Et résultat, relaté dans une étude parue dans Science Advances et dont Agnès Cousin est l'une des co-autrices. Le 18 mars 2024, une faible mais réelle aurore martienne est apparue. Mais si vous aviez été sur Mars, vous l'auriez peut-être loupée.
Ce qu'on a pu observer avec SuperCam, en fait, c'est un spectre où on voit un pic d'émission à une position en longueur d'onde à 557 nanomètres qui correspond pile à la bande de l'oxygène. Donc, ça veut dire qu'on a pu observer spectralement, pas avec nos yeux avec SuperCam, mais on a pu observer physiquement le fait que l'atome d'oxygène, en fait, quand il a été en contact avec les particules chargées du vent solaire, a été excité, ionisé, et au moment où il redevient à son état stable, et en fait, il émet un photon. Donc, on a pu observer ça. Après, avec l'outil Mastcam Z, c'est un petit peu plus parlant dans le sens où ça peut être visuel. On a une image. On voit qu'elle tend un petit peu plus vers le vert jaune. La lumière est tellement diffuse et tellement peu intense que si on le regarde avec nos propres yeux, ça serait un petit peu brillant grisâtre. Mais si on prenait notre téléphone, par exemple, qui ont quand même plusieurs filtres, là, on verrait clairement la couleur un peu plus verte. Un œil non assidu ou non habitué ne verrait peut-être pas cette aurore comme ça via l'image de Mastcam Z. Et en fait, c'est surtout la comparaison des résultats de Mastcam Z avec SuperCam qui font que, effectivement, là, on peut dire on a vu cette aurore boréale.
L'enjeu est à présent de renouveler cette observation en braquant toujours ses instruments, mais en y ajoutant des satellites martiens pour compléter les données. Cela va permettre d'étudier plus en détail les interactions entre le vent solaire et l'atmosphère ténue de Mars, de mieux la caractériser et plus largement d'étendre notre compréhension de la météo spatiale. Et surtout, point qui semble secondaire, mais ça ne l'est pas quand on parle de mission spatiale, les instruments dans le domaine du visible ont une technologie plus simple et donc bien moins coûteuse que dans l'ultraviolet. Pouvoir capter des aurores dans le domaine du visible rend donc ce sujet de recherche plus accessible.
Merci Alexandra pour votre chronique, merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Céline Lausanne, Lou Angers, Alexandre Morales. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Anthony Thomasson. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.